With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal. Mais aujourd'hui, je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois, quand adolescent, adolescente, vous avez fait un choix vestimentaire qui s'écartait des goûts de vos parents? Le regard d'horreur de votre mère quand vous avez pointé du doigt l'énorme paire de buffalo compensé dans la vitrine du magasin de chaussures. Et la déception dans les yeux de votre père quand il a compris que la période où vous étiez leur poupée, à lui et votre mère, était terminée. Qu'avez-vous ressenti? Avez-vous eu le sentiment de les décevoir avec ce choix de chaussures inattendu? Peut-être même de les trahir en osant affirmer des goûts différents des leurs. Et ce jour où vous avez annoncé à toute la famille que vous, vous feriez de la batterie alors que toute votre famille joue du piano ou du violon à la limite. Que se passe-t-il quand un des membres d'une famille décide de prendre une autre route que celle déjà tracée? Comment fait-on pour trouver son identité, sans casser l'équilibre familial et toutes les croyances sur lesquelles il se fonde? Cette semaine dans Passage, une histoire de famille et d'identité. Et pour plus de clarté, je vous en présente les personnages principaux. Emmanuel d'abord, Christine, sa mère, et Zabeth, la sœur de Christine, et la tante d'Emmanuel donc. Ces deux dernières, Christine et Zabeth, ont des voix assez semblables. Mais vous allez vite le voir, elles n'ont pas exactement le même discours. Cet épisode est de Léna Coutreau. Je suis Maureen Wilson. Bienvenue dans Passage.
Emmanuelle a une personnalité très entière. Quand elle est dans un projet, elle y est totalement. C'est une femme très passionnée qui s'investit à fond dans les hommes qu'elle aime.
Elle tombe amoureuse d'un garçon qui travaille avec les sans-papiers. Elle se lance dans la défense de sans-papiers, d'associations.
Un aristo, elle passe son permis de chasser, elle chasse. Un garçon très investi dans l'activité de théâtre. Elle laisse tomber ses études pour faire du théâtre.
C'est quand même un enthousiasme qui peut parfois même mettre mal à l'aise tellement il est fort.
Elle cherche à s'épanouir en collant à la réalité des autres. C'est une magnifique capacité d'adaptation.
Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas se fondre dans ce nouvel environnement.
Enfant, ado ou adulte, ma mère, Christine, valorise toujours la capacité de s'adapter pour une bonne compréhension d'où on est et de qui on a en face de soi. Et donc, la façon dont il faut se comporter. Je grandis dans un immeuble situé dans le quartier Montparnasse, rue Boissonnade. Un immeuble dans lequel une grande partie de la famille vit. En tout cas, ma grand-mère, Mia, ma mère, mes frères, mon père et mes tantes.
Quand Emmanuel naît, j'ai 12 ans. Je demande à Christine si je peux être sa marraine.
Je suis chrétienne et catholique parce que je suis née dans une famille catholique. La religion, c'est l'armature de la personnalité. Le jour de mon mariage, c'est un mariage religieux. Ça ne se conçoit pas de se marier autrement que religieusement. Et Elisabeth est la lectrice ce jour-là.
On va à la messe tous les dimanches, un foulard sur les cheveux, catéchisme. Mon frère est enfant de cœur. Et donc, on est vraiment une famille pratiquante assez forte.
Zabeth, c'est la petite sœur de ma mère, Christine. Elle a épousé la Ligue communiste révolutionnaire plus que le catholicisme.
À 14 ans, il y a des lectures qui font que je commence à réfléchir sur la signification de la religion. J'ai des copines communistes. Je vis dans un autre monde que ma sœur, c'est certain. Plus rebelle que ma sœur.
J'ai un souvenir adolescente. Je suis malade. Je garde le lit pendant une semaine. Et maman travaillant, je suis chez Zabeth. Et elle s'occupe de moi, elle me prépare des repas. Toutes les générations se mélangent, se croisent. J'y passe donc toute mon enfance.
Je garde beaucoup Emmanuel et Mia aussi est présente. Sa mère est encore étudiante. Une situation pas facile du tout.
Je me confie énormément à ma grand-mère, à Mia. Un jour, elle me prend entre quatre yeux. Et elle m'explique que si je dois avoir un copain et que ça doit aller plus loin, il faut d'abord que j'aille au planning familial, prendre un contraceptif, que c'est extrêmement important de me protéger. Sans tabou. Je quitte l'immeuble lorsque je commence à travailler. Je suis à l'époque avocate, jeune avocate. En 2000, je rencontre mon futur mari, avec qui je vais avoir deux enfants, Gustave et Léonard, deux garçons jumeaux. Henri vient d'une famille aristocratique, attachée aux traditions. Donc, à 8 mois, Gustave et Léonard sont baptisés. On se sépare en 2007. Gustave et Léonard ont 5 ans et moi, j'ai 37 ans. Je rencontre Maurice lors d'une soirée organisée par une de mes amies qui est artiste, plasticienne, pour présenter son travail. Donc, c'est lors d'une de ces soirées que je rencontre Maurice, qui me fait un effet fou. On passe en fait toute la soirée à discuter ensemble, à se découvrir. Alors, j'ai pas de nouvelles tout de suite de Maurice. C'est seulement quelques jours plus tard que l'amie plasticienne chez qui on s'était rencontré m'appelle et me dit « Est-ce que tu veux venir déjeuner chez Maurice ?» Je suis au bureau, il n'y a rien prévu pour le déjeuner et je suis extrêmement contente de cet appel. Donc, je réponds que oui. Je me précipite chez moi pour me préparer et je déjeune chez Maurice avec notre amie Julieta. On échange nos numéros de téléphone. Et là, moi, je m'attends à ce qu'il m'appelle très rapidement. Mais il se passe une dizaine de jours. Et donc, moi, je reste sur cette impression qu'il s'est vraiment passé un truc fort entre nous, mais que rien ne se passe. Après 10 jours, il me rappelle enfin. En fait, Maurice est parti en Israël. Il est persuadé de m'en avoir parlé, mais en fait, il ne m'en a pas du tout parlé. Et il me propose d'aller dîner le soir même. On décide de se retrouver à la closerie des Lilas, qui est entre chez lui et chez moi. Depuis ce dîner, on ne se quitte plus. Tout va très vite avec Maurice. Au bout de quelques semaines, on décide de se marier, d'avoir des enfants, de construire notre vie ensemble. Il me précise que pour lui, c'est très important que ses enfants soit juif. Il vient d'une famille très attachée au judaïsme. Donc, il n'est pas question que des enfants ne fassent pas partie de cette tradition. Le judaïsme passe par la mère, donc il faudrait que je me convertisse. On va voir un rabbin qui m'explique ce à quoi il faut que je me plie pour me convertir au judaïsme. Pour être reconnu par le consistoire comme juif, c'est 2 années d'apprentissage. L'histoire du peuple juif, ses traditions, les fêtes qui rythment le calendrier toute l'année, la liturgie, l'hébreu moderne, transformer complètement son mode de vie, s'engager à continuer à étudier après la conversion, cachériser sa maison. Je lui pose la question, et est-ce que le fait de ne pas croire en Dieu est un obstacle à la conversion? Et là, il me répond, bien sûr que non, vous n'avez pas besoin de croire en Dieu pour être juive. Sa réponse me surprend et peut-être me soulage aussi. La première personne à qui il faut que je parle est ma mère, Christine. On déjeune à côté de son bureau, au Cercle Interallié, rue du Faubourg Saint-Honoré, un lieu dans lequel on déjeune régulièrement ensemble. C'est le mois de mai, il fait très beau, donc on décide de déjeuner sur la terrasse qui surplombe ce jardin magnifique. On s'installe à une table sous un parasol. Et il faut que je me lance, mais c'est pas évident, c'est pas facile. Je pressens qu'elle va pas être très enthousiaste à l'annonce. Elle va évidemment trouver que cette décision de se marier est très précipitée, qu'on va beaucoup trop vite. Et j'ai le pressentiment aussi que le fait que Maurice soit juif ne lui plaise pas. On commande des asperges avec une sauce hollandaise. Et je me lance. Je lui annonce qu'on a décidé de se marier à la mairie avec Maurice au mois de septembre suivant.
Non, je n'ai pas de souvenir particulier de l'annonce de son mariage, qui ne me fait pas plaisir. Son mari est assez sombre et ce n'est pas quelqu'un avec lequel j'ai une empathie immédiate. Mais c'est sa vie et je respecte et je m'abstiens de tout jugement ou de tout commentaire.
Et là, elle me répond, et pour la religion, comment vous allez faire? Je suis hyper surprise. Je ne pensais pas du tout qu'elle allait mettre ça en avant, comme ça. Je réponds, on a été voir un rabbin qui m'a expliqué qu'il fallait que je me convertisse au judaïsme, parce que pour Maurice, c'est important que les enfants que nous aurons soient juifs. Et là,
je lui dis, mais il n'y a aucun problème, tu es aussi juive que lui. Voilà, si tu as besoin de dire que tu es juive, tu peux très bien le dire sans aucun problème.
Elle m'en dit pas plus. Ce qui m'interdit, en fait, ce qui m'interdit de lui poser plus de questions. Je me sens interdite. Après ce déjeuner, je prends un taxi pour la gare du Nord parce que je dois retrouver Maurice qui est à Londres pour le boulot. Je prends mon téléphone et j'appelle Maurice pour lui répéter ce que ma mère vient de me révéler. Maurice est hyper surpris. Je monte dans l'Eurostar, une place un peu à l'écart, parce que j'ai vraiment besoin de faire le point sur ce que signifie cette information dans l'histoire de la famille et dans comment lire cette histoire. Ma mère est juriste, et si ma mère me dit « tu es juive », ça veut dire qu'elle l'est, que ma grand-mère l'est. Elle sait.
Et on l'a toujours su. C'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on porte en nous depuis toujours.
Penser que ma grand-mère est juive et ne me l'ait pas dit, ça me paraît invraisemblable.
Déjà, bon, sa famille, on n'en parlait pas. Et à partir de la mort de mon père, on ne parlait pas de mon père. Malgré sa volonté toujours affichée de parler de tout, et de ne pas avoir de tabou. Et... En fait, elle était quand même la reine de la non-communication.
En fait, j'ai très très peu d'informations sur les parents, mais surtout sur les grands-parents de Mia. Aucune idée de leurs origines, du lieu où ils vivaient, de leur religion, du milieu. Ce qui est sûr, c'est que si ma mère m'a dit ça, c'est que c'est vrai. Dès mon retour de Londres, je me suis invitée à déjeuner chez Mia. Donc j'arrive à Boissonade. Je sonne, elle m'ouvre. Je ne vois personne en haut des escaliers, je monte les escaliers, je rentre dans l'appartement, personne non plus. Et là, je l'entends aller sur la mezzanine au-dessus, une mezzanine aménagée en petit salon. Et elle m'attend assise sur le canapé. Je monte et je m'installe en face d'elle dans un petit fauteuil. On est assez proche du sol. On se fait face. Il fait très beau. Je me sens bien. C'est le petit salon dans lequel on regarde la télévision. J'y ai passé beaucoup de temps. Là, je lui annonce qu'on a décidé de se marier au mois de septembre qui suit. Et elle me dit, mais pourquoi se marier si vite? Pourquoi se marier? Je lui réponds que je suis sûre de moi, que Maurice est l'homme de ma vie et on veut avoir des enfants ensemble et donc qu'on a décidé de se marier rapidement. Et enfin, je lui demande de me faire un arbre généalogique. Et elle me dit, j'ai très peu d'informations sur mes grands-parents. Mes parents m'en ont très très peu parlé. Ce que je sais, c'est que ma grand-mère, Alice Kuppenheim, est née à Lyon dans les années 1860 et quelques, et elle est catholique. Je me sens déçue de cette réponse qui ne concorde pas avec ce que Christine m'a dit. Je ne peux pas rester devant ces incohérences, il faut que je sache. J'ai le sentiment très fort à ce moment-là que les réponses, il va falloir que je les trouve seule. La résistance de Mia, elle est palpable. Je sais que ça ne va pas être simple. J'ai la certitude qu'elle me dira rien de plus. On déjeune et je retourne chez moi. Je vois Maurice. Je lui propose de regarder le film qui avait été tourné à l'occasion des 80 ans de Mia. C'est une forme de mémoire au format vidéo. On visionne le film.
Mes parents ont très peu parlé de leurs propres parents. Je ne sais pas grand-chose. Et je n'ai jamais posé de questions. Alors pourquoi? Je ne sais pas.
Il y a seulement quelques très courtes minutes au cours desquelles Mia raconte qui étaient ses parents et ses grands-parents.
Si on me dit « Est-ce que tu as eu des origines juives ?» Je dis « Peut-être, mais ça n'a jamais marqué. Je n'ai jamais été marquée par ça. »
Elle dit que très probablement, du côté paternel, il y a des origines juives, mais que ses grands-mères sont catholiques et protestantes.
Et ça, c'est quelque chose qui m'est difficile de faire comprendre à mes enfants. C'est que, pour moi, le mot « juif » n'existait pas. C'est pour ça que j'ai du mal à... Mais bon... Ça ne m'était pas... Bon, alors ça, je voudrais le dire parce que c'est quelque chose qui est un peu particulier peut-être à ma famille. Voilà.
Ce qui marque, c'est le nombre d'approximations. Je ne sais pas, ça n'a pas marqué, etc. Ce qui n'est pas du tout sa façon de s'exprimer d'habitude. Donc, on sent une résistance très forte. 4 mois après ce déjeuner, on se marie à la mairie du 6e arrondissement avec Maurice. Donc, on est au mois de septembre. Et au mois de novembre, je suis enceinte d'une petite fille, Hannah, qui va naître au mois d'août 2008. J'ai mis de côté mes recherches. Je n'étais pas encore prête à braver l'interdit, à désobéir, m'attaquer à un tabou transmis depuis au moins une génération.
Mia ne m'a jamais parlé de ses origines familiales juives. Moi non plus, je ne lui posais pas tellement de questions parce que je n'avais pas de doute ou de curiosité là-dessus. Mais même mes sœurs aînées n'ont jamais parlé directement avec elles de ça.
L'origine juive de la famille, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui est caché.
Il n'y a vraiment qu'Emmanuel qui a mis les pieds dans le plat de façon spectaculaire.
Dans un carnet rédigé par le mari de Mia, le père de ma mère, Christine, il écrit que Christine, à 10 ans, demande à sa mère, à Mia, si c'est vrai qu'ils sont juifs. Et son père répond à la place de Mia, ce n'est pas une question qu'on pose et qu'elle n'a pas à creuser le sujet. Christine a sans doute intégré que ses origines devaient rester tues.
Personne n'a honte d'une origine quelconque. Personne n'est là à vouloir se voiler la face de quelque chose qui serait inavouable. C'est absurde.
donc Hannah naît, et 3 mois après sa naissance, je suis à nouveau enceinte, mais cette fois-ci d'un garçon. Lorsque j'apprends que c'est un petit garçon, il devient urgent de savoir si je suis ou pas juive. Suivant la tradition juive, pour que ce petit garçon soit circoncis, j'ai 2 solutions. Soit je me convertis, ce qui n'est pas une option pour moi, soit je fais des recherches et je fais reconnaître mon statut par le consistoire. Me convertir, c'est renier une partie de l'héritage qui m'a été inculqué et transmis par ma mère. En janvier 2010, je suis enceinte de 3 mois. Je m'installe dans mon bureau, devant mon ordinateur, et je tape sur la barre de recherche Google, état civil, ville de Lyon.
À l'époque où maman commence ses recherches, avec Gustave, on a entre 7 et 9 ans. Moi, je ne suis pas du tout croyant. Aucun intérêt pour la religion, aucune croyance. On ne s'intéresse pas vraiment au pourquoi de l'histoire. C'est des choses qui ne nous parlent pas vraiment à cet âge-là. C'est des histoires de religion. On la voit travailler tous les jours sur la même chose. Je ne comprends pas vraiment.
Alors que je cherche cette Alice Kuppenheim, j'ai un sentiment partagé. Je crains autant de la découvrir catholique que juive. Parce que cette judéité ne m'a pas été révélée par Mia, qui s'en est défendue, mais oui, qui s'en est défendue. Et qu'on n'a pas envie de contredire une autorité morale, affective. J'ai pas envie de la décevoir, j'ai pas envie de lui manquer d'estime. Donc je suis dans cette ambivalence, mais je cherche. Donc après plusieurs heures à parcourir comme ça cet état civil, j'ai les yeux rougis, je suis fatiguée, la position assise devient pénible. Et là enfin, je tombe sur Kuppenheim. Je zoome sur l'acte de naissance et je lis. Le 5 décembre 1863, à 2h du soir, par devant nous, a comparu le sieur Joseph Kuppenheim, négociant à Lyon, lequel a présenté un enfant du sexe féminin, né de lui comparant et de Jenny Lévy, 29 ans, sans profession, son épouse, auquel enfant on a donné le prénom d'Alice Valérie. Jenny Lévy, je réalise combien c'est fou. Avec ce patronyme de Lévy, plus de doute possible, c'est le premier pavé dans la mare. Je vais pouvoir monter un dossier pour faire reconnaître ma judéité. Je clique sur l'icône imprimée. Je relis, j'en reviens pas.
Ce dont je me souviens clairement, c'est ma mère qui me dit « on a des racines juives » et ma grand-mère qui essaie de nous orienter vers une réponse différente.
Enfin, moi, j'ai aucun désaccord avec Emmanuel. Emmanuel vit sa vie, vit ses fantasmes, fonce dans la direction qu'elle veut, mais non seulement c'est moi qui lui dis ce qu'elle va trouver, je lui dis qu'il n'y a aucun problème sur le judaïsme de la famille. Si elle est en conflit avec moi, je ne suis jamais en conflit avec elle.
Même au lieu de nos 7 ans, on se rend compte qu'on est pris entre deux feux et qu'on essaie de nous faire rentrer dans un camp.
Mais les jumeaux, c'est pas leur problème. Les jumeaux, ils s'en fichent.
On se rend compte que tout le monde est en train de juger notre mère. On nous fait rentrer dans la tête que notre mère, elle a une lubie pour le judaïsme. Donc un peu, enfin, on la fait un peu passer pour une folle auprès de nous, quoi. Je pense que c'est à ce moment-là que ça commence vraiment à nous travailler avec mon frère. On a l'impression d'être des instruments.
J'entends parler des recherches d'Emmanuel par ma sœur. Ça m'agace un petit peu. Pour moi, c'est la démarche d'une personne qui se soumet au desiderata de son mari et une volonté très patriarcale du père qui veut que ses enfants soient juifs et sans tâche et sans reproche et que pour cela, ben, la mère doit être juive, quoi. Je pense que c'est surtout ça qui m'agace fortement.
Au-delà de la nécessité de monter un dossier pour le consistoire, l'enjeu à ce moment-là est surtout de mieux connaître cette famille. J'ai envie d'en savoir plus. Pourquoi la famille s'est éloignée du judaïsme? J'ai envie de comprendre. Parce qu'il y a eu silence. Il y a eu chape de plomb. Et sur le site internet de la Grande Synagogue de Lyon, il y a tout un article sur Joseph Kuppenheim, qui a été président du consistoire pendant 16 années. Il s'agit d'une lignée rabbinique qui remonte au XVIIIe siècle. Je me rends compte donc que mon trois fois arrière-grand-père est le fondateur d'une communauté juive extrêmement importante à Lyon. C'est aussi l'un des fondateurs de cette grande synagogue. Ce qui me surprend beaucoup à ce moment-là, c'est qu'une famille aussi impliquée dans la communauté ait pu laisser si peu de traces. Le consistoire prend quelques semaines pour instruire le dossier et me convoque tout de suite pour un entretien. Je me rends au consistoire et là, je suis reçue par un rabbin qui m'explique que il n'y a pas de problème, le certificat de judéité est prêt, mais qui voudrait, avant de me donner ce certificat, que je me mette à l'apprentissage de l'hébreu. Alors là, bon, je suis enceinte jusqu'aux dents, épuisée par deux grossesses successives, et je lui réponds, il n'en est pas question, je suis absolument pas capable aujourd'hui de me mettre à l'apprentissage de l'hébreu. Et là, il me dit, c'est le prix à payer. Et je lui réponds, ma famille a suffisamment payé comme ça, donnez-moi ce certificat. Bon, les choses se sont finalement très bien passées et je suis repartie avec un certificat de judéité en poche.
Cette culture juive qui vient se mixer à nous, en fait, je me rends compte en parlant que cette infusion de judaïsme, ce virage culturel, ça nous a émotionnellement beaucoup secoué, en fait.
À l'occasion de l'anniversaire de Mia, maman, Christine, nous invite, Mia et moi, à déjeuner au parc de Bagatelle, à Neuilly-sur-Seine. On s'attable, il fait très beau, on est sur une table à l'extérieur. Très rapidement dans la conversation, je fais état de la découverte de l'acte de naissance d'Alice Kuppenheim. Moi, je suis confiante et heureuse d'avoir fait ces découvertes. Et là, je sens une sorte d'agressivité.
Elle est dans une période d'apprentissage, elle a des cours, des leçons, des commentaires de textes, et ça, moi, je trouve ça formidable. D'approfondir la Torah, ça ne peut être qu'intéressant, et nous sommes une civilisation judéo-chrétienne. Là où je suis très gênée, c'est quand on m'explique que les Juifs sont un peuple élu.
L'agressivité que je perçois chez ces deux femmes, qui sont pour moi les deux personnes les plus importantes au monde, me paralyse. Une fois de plus, j'ai le sentiment de désobéir, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix si je veux poursuivre cette quête, comprendre qui je suis et d'où je viens. Ce qui passe forcément aussi par d'où elle viennent.
On est chrétien, on est catholique, on va à la messe tous les dimanches, on est des gens qui sont investis dans la vie. On ne va pas parler d'un truc qui n'existe pas pour nous. C'est absurde.
J'ai le sentiment d'une vraie solitude, un rejet de l'implication de cette famille dans le judaïsme et un rejet de mon implication. Je sens qu'elles ne se reconnaissent pas dans cette histoire. Comme si ces découvertes remettaient en question leur identité.
Mia, à l'époque, elle est malade. Emmanuel nous reproche à Mia, comme à moi, comme à toute la famille, de ne pas avoir fait d'elle une juive primaire, secondaire et tertiaire. Mais bon, parce que nous, on n'est pas comme ça. Et c'est très dur pour sa grand-mère qui est en état de grande faiblesse à ce moment-là.
Après avoir découvert que Joseph Kuppenheim avait été le président du consistoire de Lyon, je décide de prendre contact avec le grand rabbin de Lyon. Donc je me procure son numéro de téléphone et je l'appelle. Je me présente comme étant descendante de Joseph Kuppenheim et à ma grande surprise, il m'accueille très chaleureusement. Il est extrêmement ouvert et intéressé et très rapidement, il me propose de venir le rencontrer à Lyon. Donc, c'est ce qu'on décide de faire avec Maurice, d'aller passer un Shabbat à Lyon avec le grand rabbin. Donc, on arrive à Lyon. Le grand rabbin de Lyon nous reçoit dans son bureau à la synagogue, un bâtiment très, très imposant sur les rives de la Saône. Je suis extrêmement touchée par son accueil. C'est un moment très très fort, très fort. Il y a un office, le grand rabbin explique notre présence, qui je suis, et nous qualifie d'hôte d'honneur pour ce Shabbat. Le grand rabbin nous invite à dîner chez lui, et le lendemain, on se promène avec Maurice dans Lyon, et là, je lui dis, il faut qu'on se marie religieusement ici. On doit se marier dans cette synagogue. Il est partant sur le principe, donc moi, je m'imagine déjà me mariant à la grande synagogue de Lyon. J'ai une très forte impression de reconnaissance. 9 mois après, on se marie à la grande synagogue de Lyon.
Je ne vais pas au mariage d'Emmanuel, bien que je sois sa marraine. Je ne sens pas du tout cet événement. Bon, habituellement, je ne suis pas du tout fan des mariages, mais là, encore moins, quoi. Grand mariage, déplacement à Lyon, dans la synagogue qui avait été financée par l'aïeul de la famille. Tout ça me paraît une sorte de cinéma auquel je n'ai pas du tout envie d'adhérer. La joie des gens qui se marient et de l'entourage me paraît toujours complètement déplacée. En fait, quand je vais à un mariage, je pense toujours au moment où ils vont divorcer. Et c'est quand même la majorité, très grande majorité des cas. Et ça me paraît tellement futile et inconséquent que non, ça ne me dit rien. Alors qu'en plus, il faut aller à Lyon, prendre le train, aller à l'hôtel, voir des gens que tu ne connais pas, se réjouir pour un truc que tu ne trouves pas forcément réjouissant. Ben non, j'ai préféré me réfugier dans ma Bretagne.
Dans son discours, le grand rabbin qualifie notre mariage de miracle. En entrant dans la synagogue, ma mère Christine à ma gauche et Rosine Cohen, notre professeur de judaïsme à ma droite, nous remontons cette allée centrale vers la roupa. Je suis en train de faire ce que je dois faire, d'être à ma place.
Je suis accueillie par le rabbin qui me dit que je suis chez moi dans cette synagogue, alors que moi, je ne me sens pas du tout chez moi dans cette synagogue et c'est très loin de tout ce que je suis et de tout ce qu'est ma famille et de tout ce que j'ai fait pour mes enfants. Donc, pour moi, c'est un décor historiquement intéressant, mais ça ne va pas plus loin.
Ce mariage pour Emmanuel, c'est l'entrée dans la communauté juive. Je pense que c'est vraiment le déclic qui fait qu'elle se sent réellement accueillie. Pour elle, c'est un moment vraiment fondateur. J'en ai des retours par Mia. Elle est très mal à l'aise pendant tout ce mariage. Tout d'un coup, elle se retrouve accueillie dans la communauté juive de Lyon. Enfin, c'est surréaliste, quoi. Pour elle, c'est surréaliste.
3 mois après notre mariage à Lyon, Mia est très malade et affaiblie. Elle est sous oxygène chez elle. Et je lui rends visite. On est installé dans son petit salon. Elle retire son masque à oxygène et me dit « Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains mois ?» Je lui réponds « Je vais écrire l'histoire de la famille. » Et là, elle me dit « Je n'ai plus le temps, mais si je l'avais eu, j'aurais aimé le faire. » Et je lui demande « Par quel bout tu auras appris ça ?» Et elle me répond « Intéresse-toi aux femmes. » C'était une manière de me permettre d'écrire l'histoire tout en me donnant une direction. Effectivement, j'interroge la lignée maternelle.
Quand elle finit d'écrire le livre, je me souviens très bien, elle nous propose à Gus et moi d'être les premiers lecteurs, le livre qu'elle nous avait dédicacé en plus. C'est un peu paradoxal parce qu'on a envie de faire plaisir à notre mère en lisant le livre et bon, c'est son travail, ça nous concerne aussi. Et avec Gus, on n'a pas du tout envie de lire le livre parce qu'on sait que si on lit le livre, en fait, on pourrait peut-être avoir un pied dans l'embrouille.
Pour l'instant, moi, ce que j'en ai vu, c'est uniquement un récit romancé dans une famille bourgeoise juive à la fin du 19e siècle. On ne peut pas dire que ce soit des racines, on ne peut pas dire que ce soit une identité, on ne peut pas dire... C'est un récit.
Quelques mois après le mariage d'Emmanuel, je suis en train de travailler sur un logo, je galère depuis 2 heures dessus à faire des essais de couleurs, etc. Je reçois un PDF sur mon ordinateur. Emmanuel nous envoie un PDF. Bah là, je découvre pour la première fois une généalogie familiale que j'ignorais totalement. Historiquement, c'est intéressant. Bon, tout ça commence un petit peu à devenir plus concret. Mia meurt le 1er mai 2011, donc c'était 2 mois après le mariage d'Emmanuel à Lyon.
Quelques semaines après sa mort, je récupère des lettres, des documents d'identité, des photos. Je tombe sur une enveloppe, une écriture très, très élégante, une encre violette, papier important. J'ouvre l'enveloppe et je tombe sur le certificat de baptême d'Yvonne, la mère de Mia. Elle avait 7 ans lorsqu'elle a été baptisée catholique. Alors 1898, c'est le pic de l'affaire Dreyfus, une réaction de protection d'une mère vis-à-vis de sa fille à un moment très particulier qui est marqué par l'antisémitisme. La nouvelle information, c'est que la famille s'est éloignée du judaïsme à ce moment-là. Si Mia a transmis quelque chose, c'est peut-être ça qu'elle a transmis. Entre autres, la peur d'être considérée comme juif.
Après avoir vidé la maison de Mia, je reçois un mail de ma sœur qui m'envoie quelques extraits d'un agenda de notre mère, qui est aussi son journal intime et qui raconte brièvement ce qu'elle a fait au moment de la déclaration de 39-45. Samedi 25 mai 1940, arrivée à Casa. Casa, c'est Casablanca, ville blanche, moderne. Lundi 27 mai 1940, était en classe, assez sympathique. Lundi 10 juin 1940, on nous annonce que le bac est dans 8 jours. Mauvaise nouvelle de la bataille. Elle part, sa mère l'embarque sous le bras avant même qu'elle ait passé son bac. Donc c'est quand même départ précipité, grosse panique.
J'ai un peu honte à le dire, mais cette année du début de la guerre était pour moi une année très amusante. J'avais un petit flirt. C'était formidable. On s'amusait beaucoup.
Pour moi, c'est étonnant de voir que Mia, en tant que jeune fille d'origine juive, qui est quand même consciente, je pense un petit peu quand même consciente des enjeux de l'époque, elle a une vie insouciante de jeune fille.
Mia part à Casablanca parce que son père travaillait déjà là-bas et elle rejoint son père avec sa mère. Il n'y a pas de fuite devant le nazisme.
Environ 3 ans après son mariage, Emmanuel m'invite à déjeuner chez elle, dans son magnifique hôtel particulier de la rue Vavin. Je vais la voir parce que ça m'intéresse qu'elle me parle plus précisément de son travail. On monte à l'étage, et elle me montre son installation, son bureau, et elle me sort les photos qu'elle avait récupérées après la mort de Mia. Elle me montre une photo d'Alice Oppenheim, et là, je suis vraiment intriguée sur pourquoi cet aïeul a fait un choix tellement décisif et tellement incroyable. L'effroi dans lequel elle doit être pour décider de couper ses racines et de faire baptiser ses enfants qui avaient plus que l'âge de raison. Donc là, on n'est plus dans une histoire patriarcale, on est dans une histoire d'une femme qui prend des décisions énergiques et tout à fait étonnantes. À partir du moment où je comprends que pour elle, ce n'est pas juste une posture, mais que c'est vraiment un enjeu presque existentiel, je suis beaucoup moins agacée. Et donc, en fait, c'est Mia qui s'est tue sur son passé familial. Pourquoi ?
En février 2015, avec Maurice, on se trouve à Tel Aviv pour le mariage de cousins dans la famille de Maurice. Je m'y sens bien et pour la première fois, je me projette dans ce pays. J'ai l'impression d'être chez moi. J'ai un sentiment de liberté, de légèreté aussi. On discute beaucoup de cette possibilité de venir s'installer à Tel Aviv. Un dîner est organisé par les cousins pour présenter la fiancée à la famille. Et au cours de ce dîner, alors qu'on n'avait pas pris formellement la décision et encore moins fixé un calendrier, Maurice annonce à toute la famille qu'en septembre prochain, on sera là avec les enfants, qu'on a décidé de venir s'installer à Tel Aviv. Moi, je suis extrêmement surprise, mais je ne suis pas fâchée qu'il ait pris les devants. La seule chose qui risque d'être compliquée, c'est de savoir si Gustave et Léonard vont pouvoir suivre.
On a 13 ans lors de son départ, on est en quatrième. À ce moment-là, on sait qu'il y a un désir de partir chez notre mère et chez Maurice, mais plus profond chez notre mère. C'est un voyage qui est très important pour un juif et donc il est encore plus pour ma mère à ce stade parce que elle se découvre juive et elle veut absolument qu'on vienne avec elle, mais non, on n'a pas envie. Enfin, on a toute notre vie à Paris, nos copains, etc., notre père, et qui plus est pour aller dans un pays qu'on connaît pas du tout. On demande à notre mère, si tu veux qu'on vienne avec toi, pourquoi est-ce que tu restes pas à Paris? Et donc c'est là qu'elle nous dit que Paris, c'est plus chez eux, quoi. Et donc nous, à ce moment-là, en fait, on est assez remontés parce que on a le sentiment qu'elle nous abandonne.
On part s'installer à Tel Aviv au mois d'août 2015. Lorsque j'annonce cette décision à Gustave et Léonard, ils sont absolument furieux, ils ne veulent pas venir, ils veulent rester à Paris, ils veulent rester avec dans leur école, avec leurs amis, ils ne veulent surtout pas que leur vie soit bousculée. Et leur père, de la même manière, refuse, m'oppose qu'Israël est un pays en guerre, que c'est dangereux, qu'il est hors de question que ses fils partent vivre là-bas. Ma plus grande crainte à ce moment-là est que Gustave et Léonard aient un sentiment d'abandon, mais c'est très difficile de leur faire passer que je ne les abandonne pas. Je vais discuter beaucoup avec eux et je leur dis combien j'espère qu'un jour ils viendront peut-être nous retrouver.
On commence à se dire que notre mère elle est tout simplement égoïste. On a besoin de croire à quelque chose qu'on peut comprendre. Et là, on n'arrive pas à comprendre. Enfin, en fait, elle choisit bien évidemment ce pays parce que, en tant que juif, ils seront acceptés. Il n'y aura pas de problème sur ce plan-là. À Tel Aviv, ils ont réussi à s'intégrer, à se faire des amis, etc. Ils ont une vie qui est beaucoup mieux qu'à Paris. Et en fait, moi, là, je commence à me dire que. En fait, je vois le résultat de ce départ et donc je la vois plus heureuse et je vois pas pourquoi on devrait continuer à trouver du mal quelque part.
Le jour de Kippour à Tel Aviv est un jour chômé, aucune voiture. Je sors avec les enfants et je découvre que les rues sont envahies de familles avec des enfants à vélo, en trottinette. On retrouve des amis de l'école. On entend les prières sortir par la porte des synagogues. Ça illustre bien ce qui me plaît à Tel Aviv. Être juif va de soi, et chacun l'est à sa manière. La grosse différence entre Israël et la France, le jour de Kippour, c'est que tout le monde est concerné en Israël, ce qui n'est pas le cas en France. Et j'ai le sentiment d'être plus légitime à le fêter aussi. C'est sans doute pour ça que je me sens mieux en Israël qu'en France. Plus légitime et plus libre, avec un très fort sentiment d'appartenance, contrairement à ce qui se passe à Paris, contrairement à ce qui se passe dans la famille.
Elle part avec ses deux plus jeunes enfants et elle revient 2 ans après. Le fait est qu'elle ne trouve pas sur place tous les accomplissements qu'elle recherche.
Après notre tour d'Israël, notre couple avec Maurice bat de l'aile. J'ai du mal à me réadapter à Paris. On divorce en 2020. Est-ce que si je n'avais pas rencontré Maurice, je me serais posé les mêmes questions? Sans doute pas. Mais il me semble que ça n'a été qu'un déclencheur.
Elle a eu plusieurs grandes passions. Actuellement, c'est cette passion-là qui peut-être s'étiole un peu, j'en sais rien encore.
La fin de mon mariage avec Maurice n'est pas la fin de mon histoire avec le judaïsme.
Est-ce qu'Emmanuel a une quête identitaire? En fait, non. Emmanuel est à la recherche de la preuve de sa judéité. Ce n'est pas du tout l'avis de la famille qu'elle cherche à reconstituer ou à évoquer. C'est simplement de prouver, entre guillemets, prouver alors que personne ne lui dit le contraire, qu'elle est juive.
Après avoir appris l'histoire d'Alice Kuppenheim, je me dis qu'Emmanuelle, elle n'est pas juste à la recherche d'une judéité de façade pour complaire à son mari, mais que c'est devenu une histoire beaucoup plus sérieuse et qui la touche plus profondément.
C'est comme si on m'avait transmis un diamant, ce que je pensais être un diamant, et qu'en fait, je découvre que c'est une émeraude. Alors, qu'est-ce que je transmets ? Je transmets l'émeraude.
C'est un peu comme si on avait eu un culte qui sort de nulle part et qui arrive dans notre famille, qui fout un peu la merde. C'est un peu toute une culture à apprendre, comme une nouvelle matière à l'école. Donc, en fait,
quand les enfants ont 12 ans, on va faire un séjour à Ibiza et on emmène les enfants manger des pizzas. L'un d'entre eux prend une pizza avec du jambon. Et Emmanuel rentre dans une colère tout à fait démesurée. 625 interdictions dans la vie courante, c'est son choix. Elle impose ça à ses 4 enfants. Je ne suis pas contente du tout qu'elle le fasse pour les jumeaux, parce que je pense qu'elle les met dans une situation très difficile.
Le seul truc qu'on nous demande, c'est de ne pas faire rentrer de porc à la maison. Voilà, on a peut-être rechigné un peu au début, parce que, par exemple, je te dis... mange pas de porc à la maison. Et toi, le porc, en plus, t'aimes même pas ça, mais tu vas quand même en manger juste parce que t'as envie de... par rébellion, un peu. On n'en avait rien à faire, en vérité. On avait un peu le seum contre le judaïsme, en fait.
Je pense surtout qu'ils n'ont pas envie de se poser la question. Parce qu'ils ont 18 ans, et qu'à 18 ans, on se pose pas ce genre de questions, il me semble, non ? Au-delà de manger ou pas du jambon, ce que je transmets à mes enfants, c'est un sentiment d'appartenance qui se fonde sur une histoire et comment eux s'inscrivent dans cette histoire.
Quand on nous annonce que la famille a des racines juives, on nous dit en même temps qu'on a un passé très sanglant durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais ça ne m'intéresse pas du tout de savoir si on vient d'une famille de rabbins... une famille de prêtres, une famille de marchands, j'en sais rien, mais on sait que la conclusion, c'est que qu'on a des racines juives, on n'a pas le détail, et en fait, on n'a pas vraiment envie de l'avoir.
Alors, est-ce que c'est important de savoir d'où l'on vient ? J'aurais tendance à dire que non. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit. Mais ma position est aussi influencée par le fait que ma mère ne m'a jamais réellement parlé de mes origines familiales. Personne n'en parlait, donc c'était pas important. Et puis, on vivait dans le présent, et voilà. Et aujourd'hui, ça m'intéresse, oui, parce que c'est une histoire qui est singulière. C'est toujours bien de savoir qu'on a dans sa famille des femmes fortes. Tout le monde a été agacé dans la famille, tout simplement parce que Mia, elle a passé sa vie à ne pas en parler. Donc, c'était quand même pour elle plus ou moins tabou. Et Christine, de son côté, parce qu'elle a conservé la foi catholique, et c'est une chose qui constitue son identité. De voir sa fille rompre complètement avec ça, c'est quand même plus qu'agaçant. C'est bouleversant.
Je pense que si ses origines n'avaient pas été tues, je m'y serais moins intéressée. Lorsque je parle de transmettre une histoire, je parle de donner un éclairage plus complet à l'histoire de la famille, sans évidemment que ça ait une incidence sur la façon dont chacun se définit. À aucun moment, mon désir a été de changer les gens qui m'entourent. La chose importante pour moi est d'être acceptée telle que je suis, aujourd'hui, ce qui inclut le judaïsme qui fait aujourd'hui partie de ma vie.
En fait, ce que je souhaite réellement pour elle, c'est qu'elle arrive à s'épanouir dans une communauté, si elle est juive, qu'elle soit juive, peu importe, mais d'être ouverte toujours aux autres. Mais ce que je souhaite à Emmanuel aussi, c'est ne plus avoir besoin d'avoir la reconnaissance de sa mère ou la reconnaissance de son mari ou de la reconnaissance de son amant ou la reconnaissance de... Mais de trouver vraiment une voie qui lui convienne et de se foutre un peu de ce que pensent les autres.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Léna Coutreau. Maud Benakcha était à l'édition et à la coordination. Jean Thévenin a composé la musique et fait la réalisation de l'épisode. Jean-Baptiste Aubonnet en a fait le mix. Marion Gérard est responsable de production. Mélissa Bounois, directrice des productions. Et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast, vous le savez, nous laisser des commentaires, des étoiles et en parler autour de vous. À vos amis, vos abonnés sur Instagram, à vos grands-parents. Et si vous voulez nous raconter vos histoires, écrivez-nous à notre adresse mail hello@louismedia.com. Enfin, si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club sur louismedia.com/club. À très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.